Investigation, Justine Katz.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la cellule investigation de la RTBF. Aujourd'hui, on va parler des médecins généralistes et de la pénurie dont souffrent Bruxelles et la Wallonie. Une commune wallonne sur deux est en pénurie selon les chiffres de l'AVIC, l'agence wallonne pour une vie de qualité. Certaines communes bruxelloises sont aussi concernées, mais c'est la province du Luxembourg qui est la plus touchée. Là-bas, on n'hésite plus à parler de désert médical. Certaines communes, vous l'entendrez, tentent d'attirer les médecins à coup de primes ou de logements de fonction. Alors, quelles sont les conséquences de cette pénurie sur les patients? Comment en est-on arrivé là? L'avenir s'annonce compliqué avec beaucoup de départs à la pension prévus dans les prochaines années. On en parlera avec nos invités dans la deuxième partie de ce podcast. Mais on accueille d'abord Jean-Christophe Adnet. Vous avez enquêté sur ce manque de médecins généralistes. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué?
C'est qu'en fait, les médecins souffrent. C'est-à-dire que ceux qui sont là où se trouve la pénurie, sont des médecins qui ont du mal. On a dans un témoignage d'une jeune médecin qui nous dit qu'après 2 ou 3 ans de pratique, elle a dû faire un pas de côté, elle a dû s'arrêter, elle a fait un burn-out, purement et simplement. Elle s'y attendait vraiment pas. Et en fait, on voit que la pénurie a un côté, un cercle vicieux. C'est-à-dire que la pénurie entraîne la pénurie, puisque les médecins s'épuisent. Je pense que c'était vraiment ça. En tout cas, moi, une des principales surprises que j'ai eues en faisant ce reportage.
Médecin généraliste, l'inquiétante pénurie. C'est notre investigation du jour. Elle est signée Jean-Christophe Adnet, Adrien Lasserre et Francis Leclerc.
Mon enquête commence sur la place de la petite ville de Bertry, au cœur de l'Ardenne. Nous sommes jeudi, c'est le jour de marché. Cette place, c'est l'endroit que j'ai choisi pour sonder les habitants sur le sujet de la pénurie des généralistes dans la région.
Il y a un vrai problème pour vous d'offre médicale,
oui,
sur Bertry.
Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai dû chercher un médecin généraliste et ça a duré une année.
Ma femme, ici dernièrement, elle a eu un problème, j'ai dû la chercher au travail, elle ne savait plus conduire. Et alors, on a téléphoné à son médecin, il est en congé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû téléphoner à d'autres médecins, ils n'ont pas voulu se déplacer. C'était trop loin, soi-disant.
Quelquefois, il faut attendre 2-3 jours avant d'avoir un rendez-vous. Même si on a de la température, qu'on n'est vraiment pas bien, il faut attendre, quoi.
Je me suis quand même soignée toute seule, donc... C'est difficile, on a besoin de conseils, on a besoin de soigner, donc voilà.
Et vous ne pouvez pas toujours le faire?
Non. C'est triste, mais c'est comme ça.
D'ici 5 à maximum 10 ans, il y aura au moins 50% des médecins actuels et des généralistes actuels qui vont prendre leur retraite ou leur pension, et donc on sera en pénurie totale de médecins.
Alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup pour l'instant.
Alors qu'il y en a déjà trop peu.
Moi je suis paysan et fier de l'être. Mais bon, nous autres, quand on a une bête de malade ou un vélage en cours, on somme sur une demi-heure, 3/4 d'heure, le vétérinaire est là. Que ce soit samedi, dimanche à 3h du matin, voilà. Mais le médecin, c'est pas pareil.
Si j'entends ces habitants, la province de Luxembourg est en train de devenir un désert médical. Est-ce une impression ou une réalité? Je décide d'aller à la rencontre des premiers concernés, les généralistes ardennais. Ressentent-ils, comme les habitants, une pénurie dans la région? J'arrive chez le docteur Julien Gelbert. Son cabinet se trouve à Atherte, un petit village près d'Arlon, à la frontière luxembourgeoise. Ce matin, le docteur Gelbert reçoit une mère et sa fille. L'adolescente ressent une douleur au pied.
Je vous écoute.
Donc, depuis quelques semaines, Lucie s'est plainte d'avoir mal à la cheville droite quand elle va au sport. On voudrait être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose de plus important.
On va regarder un petit peu, donc je vais débarrasser la table.
Ce jeune médecin a décidé d'exercer en pleine campagne, à plus de 150 km de sa ville d'origine, Bruxelles. C'est donc un choix de vie autant qu'un choix professionnel. Une démarche plutôt rare chez les jeunes généralistes.
En fait, la majorité des gens, des Bruxellois, me disaient « Oui, mais tu vas revenir, tu vas faire ça un peu, et puis c'est quand que tu reviens à Bruxelles, quoi. » Donc ça, c'est sûr que ça, c'est pas le choix classique. et j'aimais bien voilà, ça, avoir une certaine proximité avec, avec mes patients, même d'avoir cet aspect de village où en fait la majorité de mes patients se connaissent, et donc c'est sympa aussi, j'aime bien cet aspect-là, ça me plaisait bien.
Une proximité avec les patients, une vie loin de l'agitation de la ville, ce médecin a trouvé ici ce qu'elle cherchait en s'installant à la campagne.
Et c'est à quel endroit que ça te fait mal, quand ça fait mal ?
Particulièrement ici.
Surtout là.
Mais aujourd'hui, elle est débordée.
Oui, ça fait mal ?
Ouais, c'est très froid, quoi. C'est un froid très très intense.
La pénurie dans la région est flagrante. Il y a 10 ans, la zone de garde d'Arlon comptait 50 généralistes. Ils ne sont aujourd'hui plus qu'une trentaine.
Depuis que moi je suis installée, il y a 3 médecins qui sont partis dégoûtés de la médecine curative et qui ont été travaillés soit dans des mutuelles, soit qui ont complètement changé de métier parce qu'il y a beaucoup de pression au niveau travail. Quoi. On commence par qui ? Une petite verrue.
C'est pas
la
très
repousse,
beau.
C'est un petit peu compliqué. Est-ce que ça fait mal ?
Wow, oui, ça fait un peu mal.
On sent petit à petit qu'on s'approche du désert médical. Je pense qu'on n'est pas dans les excès qu'on peut avoir en France, mais on sent bien qu'il y a une raréfaction de l'offre. Et du coup, je me retrouve à tous les jours devoir refuser des nouveaux patients. Et ces gens sont en errance médicale et on les retrouve du coup aux urgences parce qu'ils n'ont pas le choix.
Julie Angelbert m'explique qu'elle non plus n'a pas eu le choix. Elle a dû se résoudre à indiquer sur son site internet qu'elle ne recevait plus de nouveaux patients. Elle me montre le message qui apparaît lorsqu'on consulte son site.
Le docteur Angelbert n'est malheureusement plus en mesure d'accepter de nouveaux patients. Merci de votre compréhension.
Donc c'est vrai que moi j'ai mon agenda là où je note tous les gens que je dois rappeler, toutes les choses que je dois faire et ça se remplit bien. Hein. Vous voyez ici, il n'y a plus du tout de place. Donc j'ai dû mettre ce message ici. Donc ça permet, comme ça pop dès que les gens ouvrent le site, ça leur permet d'être tout de suite au courant et de ne pas se poser la question.
Le fait de ne pas pouvoir accéder à toutes les demandes, ça pose des problèmes même pour vous d'un point de vue éthique. C'est là où c'est compliqué.
Bah oui, c'est sûr, parce que on entend bien la détresse des gens aussi, et c'est vrai que ça devient vraiment compliqué, surtout que c'est tous les jours, c'est pas une fois par mois quelqu'un qu'on doit refuser, c'est tous les jours, et des gens qui insistent, des gens qui ont déjà appelé 10 personnes avant de m'appeler, et à qui je ne peux même pas dire « appelez machin, il a de la place », parce qu'en fait, je ne sais même pas dire qui accepte des gens dans le coin, donc ça devient vraiment, vraiment très très difficile.
Je commence à comprendre les conséquences bien réelles d'un manque de généralistes. Ce sont donc des patients en errance, moins bien soignés, mais aussi des médecins sous pression. Il y a peu, le docteur Angelbert a d'ailleurs craqué et a dû s'arrêter de travailler pendant près d'un mois. Elle accepte de m'en parler.
Je me doutais que j'aurais vite beaucoup de boulot. Mais de me retrouver au point de devoir comme ça m'arrêter plusieurs semaines parce que j'étais vraiment épuisée, j'aurais pas cru, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette charge-là aussi de se dire n'oubliez personne, ça devient parfois difficile. Et du coup, c'est vrai que ça traîne en tête. Et à ce moment-là où je me suis arrêtée, c'était... j'arrivais pas à dormir et j'étais vraiment au bout du bout. Et me dire que je suis arrivée à ça en... même pas 3 ans et demi de pratique, c'est quand même interpellant. Quoi. Et voilà.
Merci beaucoup.
Pas de soucis.
Bonne au revoir.
Au revoir, bon après-midi.
Merci, au revoir.
Aujourd'hui, le GBO, le principal syndicat de généralistes, considère qu'un médecin sur deux est en risque de burn-out. Et je comprends que le docteur Angelbert est pessimiste pour l'avenir, comme beaucoup de ses confrères. En août 2022, un journal médical a réalisé une vaste enquête auprès des généralistes francophones. Résultat, comme mon interlocutrice, 60% d'entre eux refusent aujourd'hui des patients.
Quand je vois que moi, quand j'étais en première année de médecine, on était plus de 1000 rien que dans mon université, et qu'actuellement, sur tous les étudiants qui ont réussi l'examen d'entrée, ils sont 800... Je me demande combien vont finir médecin généraliste à la fin et combien vont arriver jusque dans notre province. Donc c'est sûr que c'est inquiétant et qu'on commence à se poser des questions pour pas laisser des patients non plus sur le carreau.
Qui sont ces patients qui restent sur le carreau? Julie Angelbert m'explique que ce sont souvent des familles qui ont quitté la ville pour s'installer à la campagne. Je décide de me rendre à Meix-le-Tige, à une dizaine de kilomètres d'Arlon. Sandrine Deverny me reçoit chez elle.
Bonjour.
En 2015, cette jeune femme a emménagé en province de Luxembourg. Elle vient de Liège et m'explique qu'à l'époque, elle ne connaît personne dans la région. C'est donc seule qu'elle a tenté de trouver un médecin de famille.
J'ai d'abord téléphoné à la commune, tout simplement, pour avoir une liste des médecins traitants, parce que j'avais bien une petite liste sur Internet, évidemment, comme tout le monde. Mais les médecins me disaient, ah ben non, on ne prend plus de nouvelles patientèles. Donc je me suis dirigée vers la commune pour voir s'il y avait d'autres médecins sur la, ben, dans la commune ou même aux environs.
Vous vous souvenez à peu près de combien de numéros vous avez composés ?
J'en avais bien fait 7 ou 8, au moins. Parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de médecins généralistes. Je n'en ai encore trouvé aucun, en tout cas. Et encore maintenant.
En cherchant un peu, j'ai moi-même trouvé dans la région un centre médical. Non loin, il y a donc plusieurs généralistes rassemblés sur un même site, avec plus de disponibilité. Sandrine Deverny me répond qu'elle a tenté cette maison médicale. Mais elle n'était jamais vue par le même généraliste, alors qu'elle a besoin d'un médecin traitant personnel en charge de son dossier. Elle doit en effet être suivie pour des soins post-opératoires assez lourds. Vu son état, un médecin finit tout de même par accepter de la recevoir.
Finalement, en fait, c'est mon chirurgien qui m'a donné le nom d'un médecin qu'il connaissait en disant « ben, tu appelles, c'est de ma part, elle n'a pas le choix, il faut un suivi ». La dame a bien voulu me prendre, ben, parce que voilà, un peu forcée par le chirurgien, donc elle m'a prise comme patiente, en me disant bien qu'en fait, ben, avec les conditions Covid, son métier ne lui plaisait plus et qu'elle allait certainement arrêter. Et je me suis de nouveau retrouvée sans médecin.
Une nouvelle fois.
Une nouvelle fois.
Sandrine Deverny est-elle un cas isolé ? La province de Luxembourg est-elle la seule région du pays à subir une telle pénurie de généralistes ? Pour connaître la réponse, je vais à la rencontre de Lara Cotelard, la porte-parole de l'AVIC. Elle me reçoit dans leurs locaux de Charleroi.
Bonjour, vous allez bien ? Avec plaisir.
L'AVIC, c'est l'agence wallonne pour une vie de qualité. Elle essaye de lutter contre ce phénomène de pénurie. Elle a donc listé les communes en difficulté pour distribuer des aides financières aux médecins qui s'y installent.
Bien, j'ai ici sous les yeux la liste des 253 communes wallonnes donc qui sont couvertes par la VIC, pour lesquelles nous avons la compétence. Et sur cette liste, il y a les communes en pénurie simple et en pénurie sévère.
En Wallonie, les zones en pénurie sévère sont celles où il y a moins de 5 généralistes pour 10 000 habitants. La pénurie est dite simple quand ce nombre est de moins de 9 médecins pour 10 000 habitants. Et dans toutes les communes où ils ne sont pas assez nombreux, la région leur octroie jusqu'à 25 000 euros de prime à l'installation.
Alors il y a 132 communes sur les 253 qui sont en pénurie. Ça veut dire un peu plus de 52%. Ça reste important évidemment. Alors si on parcourt un peu la liste, il n'y a pas de secret, c'est en province de Luxembourg, puisque seuls 6 ne sont pas en pénurie. Alors je vais prendre ici par exemple une des premières qui est Bastogne, elle est en pénurie simple. Bertry par contre sera en pénurie sévère. Je peux descendre un peu plus bas, Bouillon est en pénurie simple. Et alors là je sors du Luxembourg, mais je vois que la commune de Braine-l'Alleud est une commune en pénurie simple. On ne pouvait peut-être pas s'en douter, mais donc c'est sur base de cette liste qu'on va pouvoir octroyer les aides aux médecins qui s'installeraient.
Ça veut dire qu'en région wallonne, on peut dire que le phénomène de la pénurie des généralistes est finalement un phénomène qui touche à peu près toutes les régions.
C'est une évidence, ça peut toucher l'ensemble des provinces de façon différente, mais toutes les provinces sont impactées.
Il n'y a donc pas assez de généralistes dans plus de la moitié des communes wallonnes. Le paradoxe, c'est que sur l'ensemble du territoire, il y a plus de 10 généralistes pour 10 000 habitants. Pas de pénurie donc, on ne comprend plus rien. En fait, les médecins sont juste très mal répartis. Dans certains quartiers populaires des villes, mais on l'a entendu, à la campagne aussi, la pénurie est flagrante. Et dans toutes ces zones, les médecins s'épuisent, ne sachant pas faire face à la demande. Dans les régions rurales, cet épuisement s'explique notamment par les très longs trajets en voiture lors des visites à domicile. Direction Meix devant Virton, toujours en province de Luxembourg, mais à la frontière française cette fois, c'est une commune en pénurie sévère. Le docteur Victoria Enrard m'emmène sur les routes. Nous nous rendons dans une ferme isolée, à 20 minutes de voiture de son cabinet.
Les visites à domicile, c'est tous les jours, c'est au quotidien, c'est quand même une importante partie de la journée. Donc 3 à 4 heures où je suis en route à domicile et je vois 4 à 5 patients sur l'après-midi. Donc ça me prend presque une heure par patient. Tandis qu'au cabinet, on peut en voir 3 ou 4 par heure. Donc c'est vrai que c'est une grosse partie, on pourrait presque dire une perte de temps entre guillemets, mais c'est nécessaire.
Nous arrivons chez la patiente, une dame âgée, vivant seule dans sa ferme, loin de tout.
Ce sont pas des gros fils non plus.
Oh non, c'est tout fin dans le visage. Mais il a franchement fait du beau travail.
Moi, je ne vois pas grand-chose, là.
Quelques points de suture enlevés, un petit mot de réconfort, et le docteur Enrard reprend la route.
Ça pourrait décourager des médecins qui recherchent le rendement, parce que c'est vrai que c'est pas très rentable de partir toute une après-midi en visite domicile et de ne voir que 4 ou 5 patients sur l'après-midi. Maintenant, on passe un petit peu de temps avec les gens, c'est des moments sociaux qui sont importants, c'est des gens qui ne se déplacent plus, donc ils se sentent fort seuls. Donc ça a du bon et du mauvais. Maintenant, c'est vrai que c'est pas rentable.
Les longues distances, la solitude, ces conditions de travail à la campagne rebutent les jeunes médecins. Le problème n'est pas neuf, mais désormais, toute la région se mobilise pour attirer les généralistes. La province de Luxembourg et les communes tentent de trouver des solutions à la pénurie. Les médecins eux-mêmes ont créé une association, baptisée Santé Ardennes. Je retrouve le docteur Enrard chez elle, dans son appartement.
Quand j'ai eu fini l'assistanat de médecine générale, je regardais à m'installer dans le sud de la province du Luxembourg. Et puis, en parlant avec Santé Ardennes, qui nous aide, nous, médecins généralistes en zone à pénurie, à s'installer, à être aidés, à être accompagnés, ils nous ont parlé du projet Amex de Vanvirton. Ils étaient en train de construire un cabinet médical avec un logement mis à disposition pour le médecin. Donc c'est une ancienne grange qu'ils ont complètement rénovée. Au premier et deuxième étage, il y a un duplex qui est notre habitation familiale pour le moment. Au rez-de-chaussée, il y a le cabinet médical. Donc il y a deux cabinets pour deux médecins. Il y a un petit secrétariat et puis il y a la salle d'attente. Le loyer pour les deux cabinets, on paye 300 euros par mois. Et puis le logement ici, on est pour le moment à 400 euros et on a commencé à 350. Ça augmente chaque année de 50 euros.
Victoria Enrard m'explique qu'aujourd'hui, les petits villages isolés n'ont plus le choix. Pour attirer les jeunes, il faut des incitants, y compris financiers. C'est le prix à payer pour tenter de garantir des soins de qualité à la population.
On est chouchouté, oui. Il n'y a pas beaucoup de médecins, il y a une grande pénurie, donc ils essayent vraiment de nous attirer comme ils peuvent. Et on sent vraiment qu'il faut repeupler les régions désertes comme ici. Donc on sent que tout le monde est alerte, que tant la commune que la province, que la région wallonne essayent vraiment de mettre des choses en place pour repeupler, parce qu'ici, chez nous, en tout cas, c'est vraiment un désert médical. On aurait du travail pour travailler jour et nuit sans arrêt. Tous les jours, on doit refuser des patients et on refuse ceux qui viennent de trop loin pour pouvoir continuer à couvrir un minimum la région ici.
Le manque de généralistes provoque un cercle vicieux. Les jeunes médecins ne veulent plus s'installer là où ils sont déjà trop peu nombreux, là où ils seraient les plus utiles. En septembre prochain, 1366 étudiants pourront entamer les études de médecine. Près de la moitié devraient devenir généralistes. Mais ce nombre sera-t-il suffisant pour compenser les départs à la retraite des anciens, les burn-out, les abandons des jeunes, le vieillissement de la population ? Au sein même de la profession, on n'y croit pas. Pour une majorité de généralistes, sans une augmentation des quotas et la mise en place de mesures destinées à réduire la pression sur les médecins, cette situation de pénurie pourrait même empirer dans les années à venir.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Pascaline Dautrey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste au sein de la maison médicale Assasso à Saint-Gilles à Bruxelles. Paul de Munck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à la retraite, président du GBO, le groupement belge des omnipraticiens, principal syndicat de médecins généralistes francophones. Et enfin, Guy Delray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Marchand-Famène, président de la FAGW, la Fédération des associations de généralistes wallons. Merci à tous d'être avec nous. Je commence avec vous, Guy Delray. Vous êtes donc médecin en province de Luxembourg depuis près de 20 ans. On l'a entendu, hein, c'est la province la plus touchée par la pénurie. Ça a quelles conséquences concrètes sur vous et sur vos patients ?
Sur les patients, tout d'abord, c'est qu'ils ont de plus en plus de difficultés de trouver un médecin généraliste lorsque le leur part à la pension ou quand ce sont des nouveaux patients. Donc ça, c'est compliqué. Pour les médecins généralistes, ils ont une pression importante. Leurs journées sont vraiment très remplies. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Les gens insistent pour avoir un rendez-vous. Et donc, c'est compliqué parce que nous voulons tous faire une médecine de qualité. Et la qualité, ça prend un minimum de temps. Donc on doit, à un moment donné, pouvoir dire stop. Et puis, on sent bien que les généralistes, c'est autant d'élastiques très tendus sur lesquels on tire encore. Et donc, il faut aussi, à un moment donné, pouvoir dire stop au risque de casser.
Est-ce que la situation s'est aggravée pour vous ces dernières années ?
Oui, clairement, on voit la situation s'aggraver et elle va encore s'aggraver. Hein, on a encore toute une série de médecins généralistes qui ont des patientèles très importantes et on ne voit pas des jeunes qui arrivent en nombre suffisant que pour reprendre ces patientèles. Donc, et ces médecins généralistes, parfois, reportent leur départ à la pension parce qu'ils se rendent bien compte qu'il n'y a personne d'autre. Mais ce report ne sera pas indéterminé, indéfini. Hein.
Est-ce que les patients de cette province de Luxembourg sont moins bien soignés que ceux d'autres provinces ?
Ah ça, je n'ai pas les chiffres pour le dire, mais je pense qu'on comprendra aisément que quand on a moins d'accès aux soins, qu'on doit reporter ses soins, évidemment que ça a des conséquences négatives sur la santé. Donc c'est clair que c'est un risque qui va pouvoir être malheureusement être observé par la suite, ou peut-être déjà maintenant, mais je n'ai pas les chiffres là-dessus.
Pascaline Dautrey, donc vous êtes aussi médecin généraliste, on l'a dit, sur Bruxelles, à Saint-Gilles. Est-ce qu'il vous arrive de devoir refuser des nouveaux patients, ou est-ce que vous pouvez encore accepter, vous, des nouveaux patients ?
Alors nous, on a la chance de pouvoir encore accepter des nouveaux patients parce qu'on a la chance d'accueillir une nouvelle médecin dans notre équipe. Et donc ça, on estime vraiment que c'est une chance parce qu'on a dû refuser des patients pendant très longtemps. Alors on les a jamais refusés, mais on a un périmètre d'action tout petit autour de la maison médicale et on a pu le réélargir, sachant que certains médecins de la commune étaient partis à la retraite, avaient arrêté. Donc voilà, mais on a toujours l'impression d'être à flux tendu. Ici, ça fait 6 mois qu'on a pu réengager, mais on est de nouveau complètement full et ça va très très vite.
Comment ça se passe dans votre pratique quotidienne, cette charge du coup de travail, c'est gérable encore aujourd'hui ?
Alors pour nous c'est gérable parce qu'on répartit la charge à plusieurs et on va travailler sur l'interdisciplinarité et que donc on peut s'entraider en trouvant des choses avec, donc moi je travaille avec des kinés, des infis, une psychologue, une assistante sociale et donc on va pouvoir finalement orienter les gens de façon différente et de ne pas être seul face aux patients dans notre pratique de médecin généraliste. Et donc, on arrive à se répartir les charges en fonction de problèmes, en fonction de pathologies, en réfléchissant ensemble à comment on peut se répartir cette charge de travail. Donc, on se sent moins impacté, c'est clair.
On y reviendra quand on évoquera ce volet solution. Jean-Christophe Adnet, on l'a dit, vous êtes journaliste à Investigation. Que disent les chiffres ? Qu'est-ce qui détermine finalement quand on est en pénurie de médecins ?
Alors on l'a entendu dans le reportage, une région est en pénurie si le nombre de médecins généralistes est de moins de 90 pour 100 000 habitants. Ça c'est la norme fédérale. Alors le paradoxe c'est qu'en Belgique, cette proportion de médecins est supérieure. Selon les régions, on compte entre 120 et 130 généralistes pour 100 000 habitants. Donc si on s'en tient strictement à cette norme fédérale, notre pays n'est pas en pénurie de généralistes. Et pourtant, sur le terrain, on nous dit le contraire.
Paul de Munck, vous représentez le groupement belge des omnipraticiens. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Est-ce qu'on est en pénurie ou pas de médecins généralistes ?
On est absolument en pénurie de médecins généralistes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut faire une grande différence entre les chiffres absolus et le calcul en équivalent temps plein. La bonne nouvelle du jour, c'est que les autorités et les commissions de planification et les autorités sanitaires ont compris cela maintenant. Mais ça vient un peu tard, hein, et on aurait dû comprendre ça il y a 20 ans. Mais donc, maintenant, on a compris qu'il faut calculer en équivalent temps plein. Je vais vous donner qu'un exemple. Dans la région wallonne, il y avait en décembre 2021 3717 médecins véritablement répertoriés, actifs, où on peut prouver qu'ils sont vraiment actifs. Si on transforme ça en équivalent temps plein, on descend à 3300 61. Donc vous voyez déjà la différence. Pourquoi ? Mais c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, le médecin généraliste ne travaille plus comme hier. Moi, je suis de la pléthore. Hein. On travaillait probablement trop, beaucoup trop. Aujourd'hui, les médecins généralistes ont compris qu'ils veulent préserver non seulement la qualité de leurs soins, mais aussi leur qualité de vie, et ça va de pair. Eh bien, on ne peut plus faire des 10, 12 heures par jour, voire plus, et travailler non-stop, etc. C'est préjudiciable à la qualité des soins, c'est préjudiciable à la santé, au bien-être du médecin.
Pascaline de Trèpe, Guy Delry, vous partagez ce point de vue. Les médecins, les jeunes médecins aujourd'hui, n'ont plus envie de travailler autant d'heures que les plus anciens.
Oui, oui, clairement, ils n'ont plus envie, ils ont envie d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Ils n'ont peut-être plus non plus besoin, ils ne savent pas le faire non plus. Autrefois, le médecin généraliste, il ne faisait que ça, mais il avait une épouse qui prenait le téléphone, qui s'occupait des enfants, qui allait faire les courses, qui s'occupait de payer les factures bien souvent. Et donc le médecin généraliste ne faisait que ça. Et d'ailleurs, quand il prenait sa pension... Enfin, à l'heure de prendre sa pension, il se rendait compte qu'il ne savait rien faire d'autre, qu'il n'avait pas beaucoup d'autres centres d'intérêt, et parfois il continuait. Maintenant, c'est pas la même chose. On veut prendre du temps avec ses enfants, on veut avoir des hobbies, etc. Et puis, on a un conjoint qui travaille. Et donc, en tant que généraliste, on n'est plus le seul revenu, et on n'est parfois pas non plus le principal revenu du ménage, du couple. Et donc, on n'a plus besoin de travailler autant.
Plus besoin, plus envie non plus, Pascaline de Trèpe, parfois.
Oui, c'est ça, plus besoin, plus envie. Et puis se rendre compte qu'autour de nous, on voit que la santé mentale des gens se détériore. Et que donc, on se rend compte de ce que l'abus de travail ou bien le mauvais encadrement de travail peut faire sur certains de nos patients qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et on se dit, bah, nous, on doit quand même faire attention à ça. Et donc, outre le fait que c'est clair que moi, je dois rentrer à la maison, ma journée n'est pas terminée. Et à 5 heures, je vais chercher les enfants et j'ai plein de choses à faire. Et puis, j'ai aussi tout plein de hobbies. Et je trouve mon équilibre là-dedans. C'est vrai que je ne fais pas que de la médecine générale, je fais d'autres choses aussi, de la défense syndicale, je fais de la représentation, enfin voilà, je fais plusieurs choses et c'est ça qui est chouette aussi. Il y a aussi le fait que quand on avait beaucoup de médecins, on a créé beaucoup de médecines autres, type préventive, tout ce qui est planning familial, l'ONE, tout ça. Et donc, c'est quand même encore des choses qui nous semblent importantes et intéressantes à faire, mais on doit faire toutes ces choses en plus du métier de médecin généraliste. Et donc, évidemment, ça va aussi diminuer notre temps de travail de consultation, colloque singulier de médecin généraliste, parce qu'on veut pouvoir faire éventuellement un peu d'ONE, pouvoir faire un petit peu de planning. Et on voit que partout dans ces métiers annexes de la médecine générale qui ont besoin de généralistes, la pénurie est encore plus grande. Et donc, c'est aussi varié les horaires et les choses.
Paul de Munck, au niveau donc, du GBO que vous représentez, on n'estime pas qu'il y a une mauvaise répartition géographique des médecins.
C'est vrai, il y a des zones qui sont plus peuplées de médecins généralistes que d'autres, mais je répète, et c'est important qu'on le dise et qu'on le redise, il y a une pénurie. Même avec cette petite inégalité de répartition sur le territoire, il y a une pénurie objective partout, 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 partout.
Est-ce que la Flandre est aussi concernée ?
La Flandre est un petit peu moins concernée. Elle a souvent été dans le déni pendant de très nombreuses années en disant non, nous avons assez de médecins généralistes. Depuis quelques années, moi j'entends un discours radicalement différent en disant nous aussi, on manque de médecins généralistes. Ils se sont réveillés et ça ne vous aura pas échappé que dernièrement, certains hommes politiques en Flandre réclamaient au ministre Van den Broek d'augmenter le quota de production, enfin de production, j'aime pas ce terme, le quota de numéro inami attribué aux médecins. Donc eux aussi ont un problème. Mais il y a quand même des différences avec la région wallonne et la région bruxelloise en termes d'organisation du travail au niveau de la médecine générale. C'est vrai, hein, on peut reconnaître ça, hein, quand on voit les chiffres. Hein, le médecin généraliste, encore aujourd'hui, mais est-ce que ça va durer? Le médecin généraliste flamand fait un petit peu plus de consultations par jour qu'un médecin généraliste wallon ou bruxellois. C'est vrai ça, mais est-ce que ça va durer? Je crois que nos amis flamands, parfois, ils se réveillent un peu après nous et disent, tiens, au fond, finalement, vous n'aviez pas tout à fait tort, nous aussi, on veut améliorer notre qualité de vie. Donc ça va peut-être changer en Flandre aussi. Mais pour l'instant, pour répondre à votre question, oui, il y a un peu de différence entre le nord et le sud.
Moi, je travaille à Bruxelles et donc j'ai des patients qui quittent Bruxelles parfois pour aller en périphérie et donc ils vont en périphérie néerlandophone et ils ne trouvent pas de médecin. Donc ouais. Je pense qu'il y a quand même un ressenti du patient qui est peut-être le même qu'en Wallonie ou à Bruxelles, en tout cas actuellement. Mais c'est une réalité que je vois.
Pourquoi finalement il y a cette pénurie? Qu'est-ce qui rend si compliqué le fait de trouver des médecins généralistes? Est-ce que dans les étudiants qui font des études en médecine, trop peu choisissent cette orientation-là?
Oui, donc il y a effectivement probablement trop peu de places ou d'étudiants qui s'orientent en médecine générale parce que nos études ne nous montrent pas cette voie-là comme une voie vraiment honorable. Ensuite, je pense que quand on est médecin généraliste, on est peut-être aussi très sensible de plus en plus à cet fameux équilibre. Et donc forcément, on ne cherche pas à travailler comme les aînés l'ont fait, ou parfois on craque. On est peut-être un peu plus seul aussi, même si maintenant c'est moins le cas. Et heureusement, c'est une manière de tenir le coup que de travailler en groupe, parce que sinon, on a aussi vu pas mal d'abandons aussi de la médecine générale, parce que c'était pas tenable.
Du côté de votre association, Paul Demuc, vous avez des chiffres justement sur ce risque de burn-out des médecins. On parle d'un médecin sur deux qui serait à risque de burn-out.
Les faits sont là. Il y a des burn-out, il y a des gens qui quittent la profession prématurément, après 3-4 années, etc., etc., ou qui changent complètement d'orientation. Mais je voulais revenir, si vous permettez, madame, sur la responsabilité des autorités, pourquoi on en est arrivé là. C'est important de le dire. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les commissions de planification fédérale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont enfin arrivées à reconnaître qu'il faut former et il faut donner des numéros INAMI à 51% aux médecins généralistes et le reste aux médecins spécialistes. Ça n'a pas toujours été le cas.
C'est pour renforcer les médecins généralistes.
La médecine générale, pour renforcer la médecine générale. C'est très important. Et donc, il y a une responsabilité dans les années précédentes qu'on n'a pas pris assez ces responsabilités pour former suffisamment de généralistes. Ok, les choses changent, mais ce qui est important à dire, c'est que, et je crois que c'est Guy ou Pascaline qui l'a dit, avant que ces mesures-là qu'on commence à mettre en œuvre maintenant, on parle des sous-quotas, c'est un peu technique, avant qu'on commence à mettre ces mesures en œuvre, un médecin généraliste, c'est 9 ans. D'accord? Si on calcule aussi avec les départs qui vont continuer à la pension, etc., si on calcule en équivalent temps plein, etc., eh bien, il faudra attendre, d'après nos calculs au GBO, 2041 pour dire « ouf ». Maintenant, on se sent quand même plus à l'aise avec un médecin généraliste entre 800 et 1100 habitants. Donc, voilà. Mais donc, il y a une responsabilité, je n'ai pas peur de le dire, académique, des autorités, des commissions de planification, mais tout ça est occupé à changer et c'est une bonne nouvelle.
Oui, non, moi je veux renchérir, donc il y a un problème d'attractivité, mais il y a aussi un problème de rétention. Donc une étude récente a encore montré pour la deuxième fois qu'il y avait entre 20 et 25% des généralistes qui, après 5 ans, avaient arrêté de travailler comme généraliste. Donc il y a un problème de rétention, ce qui montre bien qu'il y a un malaise au sein de la profession. Pour toute une série de raisons, on cite souvent la surcharge administrative, parfois peut-être la solitude, mais pas que, les rapports peut-être parfois difficiles quand même avec les patients, l'exigence des patients, le métier qui est complexe, enfin toute une série de choses qui font que on en perd en cours de route.
Ce qu'on constate aussi au sein des facultés, c'est que parfois le choix de la médecine générale, étant donné qu'il n'est pas toujours hyper valorisé, parfois un second choix. On a rencontré, nous, beaucoup d'étudiants qui nous disaient « Ben voilà, moi, je voulais me destiner à la dermatologie, je voulais me destiner à telle spécialité. Voilà, l'année prochaine, c'est un ou c'est deux. Ah, donc, ben voilà, je me reporte sur la médecine générale. » C'était assez triste à entendre parce qu'on se dit, alors que c'est le choix principal de beaucoup de gens, il y a aussi toute une série d'étudiants qui font ce choix par défaut. Et donc, effectivement, quand ils exercent, ce n'était peut-être pas leur choix de départ. Et donc, peut-être qu'ils s'épuisent encore plus vite.
On peut souligner un point positif, c'est que les universités maintenant imposent à tous les étudiants dans leur cursus de faire un ou deux stages de médecine générale. Et donc, on voit arriver dans nos cabinets des stagiaires qui se destinaient à des spécialisations. Alors, moi, ils viennent faire un mois chez moi. On partage. Mon but, c'est de leur faire découvrir, c'est pas de leur faire changer d'avis. Mais en cours de route, on a quand même pas mal d'étudiants qui nous disent, mais je me rendais pas compte que c'était si chouette. Et il y en a pas mal qui se remettent en question. Donc ça, c'est déjà un point positif. On espère que ça pourra faire naître des vocations.
Vous partagez ça, Pascaline Notre?
Oui, tout à fait. Et je voulais rajouter que toute notre vie, on va aller vers l'hôpital. Donc on sort de la maternité avec son bébé et on dit « Est-ce que vous avez un pédiatre ?» Ben non, en fait, est-ce que vous allez aller à l'ONE? Est-ce que vous avez un généraliste qui vous soigne? On dit, oh, vous avez un problème d'hypertension, vous allez voir un cardiologue. Non, vous allez voir votre généraliste. Et donc, en fait, le nombre de fois où on m'a demandé, tu t'arrêtes là? Tu vas faire que la médecine générale? Non, en fait, c'est un choix que j'ai fait. Et donc, je pense qu'en termes d'éducation à la santé publique et à l'organisation des soins, il y a quand même vraiment à faire au niveau des politiques pour que tout le système se réfléchisse, pour qu'on puisse sortir ensemble de cette pénurie et réfléchir les métiers de la santé, l'interdisciplinarité et justement la remise en place d'une première ligne forte qui va faire que ça coûtera moins cher à la société et que les gens seront pris en charge plus vite et plus tôt auprès de leur famille. On est des médecins de famille, des médecins proches et donc on connaît mieux nos patients. Mais voilà, c'est toute une culture qu'il faut changer, quoi.
Paul Demung, vous voulez réagir ?
Oui. Encore une fois, les lignes bougent et je pense que au niveau de nos professeurs dans les académies de médecine, les choses changent aussi. Et il y a beaucoup de professeurs qui commencent à comprendre que la médecine générale n'est pas une sous-spécialité et que ils vont rendre petit à petit les lettres de noblesse à la médecine générale, parce que je pense aussi que dans l'ensemble de la population médicale, les gens comprennent combien ce métier est essentiel pour un système de soins. Mais je voulais juste revenir sur, finalement, où est-ce qu'on va s'installer quand on fait ses études. Et ça, c'est très important, parce que dans une revue Prescrire, récemment, il y a un excellent article qui a été publié et qui montre bien que même dans de multiples pays, c'est pas tout de dire qu'on va planifier à l'installation, de dire vous irez travailler là ou là, ça ne marche pas nécessairement. Et un des facteurs qui fait qu'on va s'installer quelque part, c'est un, est-ce qu'il va y avoir du boulot pour mon conjoint ou pour ma conjointe
Qui n'est pas médecin.
Deux, est-ce qu'il y a des crèches pour les gosses? Est-ce qu'il y a des écoles de proximité? Est-ce qu'il y a des commerces, une vie sociale, etc., etc. Ça, c'est aussi un paramètre qu'on doit prendre en compte. Et ça dépasse largement la responsabilité du système de santé et du système de soins, parce que ça, on pose des questions de désertification de l'environnement social dans certaines régions du pays.
Les gardes de nuit, c'est aussi un élément qui fatigue beaucoup les médecins généralistes. En province de Luxembourg, vous avez été un peu les pionniers, Guy Delleret, à créer un système de garde centralisée. Comment ça fonctionne ?
On s'est mis ensemble, on a fait les postes médicaux de garde. On a essayé quand même de ne pas les éloigner trop de la population. Donc on a mis un maximum de 29 minutes entre le patient le plus éloigné et un poste de garde. Ça a diminué la récurrence, ça a augmenté la sécurité à tout point de vue. Je pense que le service était de qualité. Ça reste lourd, mais c'était vraiment absolument nécessaire. Hein.
Parlez au passé, ça veut dire que ce système n'est pas amené à durer ?
Le système, je pense, est amené à durer. On est un peu dans des zones de turbulence où clairement on remet en question certaines choses qui sont de nature à éventuellement réaugmenter la récurrence, réaugmenter la pénibilité, en tout cas peut-être diminuer un peu le sens de ce qu'on veut, parce que nous, ce qu'on estime qui est important pour nous en garde, c'est de voir quelqu'un qui a un problème de santé qui ne peut pas attendre le retour du médecin, mais pas de tout venant. La garde, c'est pas un night and day, hein, donc se lever la nuit pour des choses qui sont vraiment importantes, oui, mais on est trop souvent appelé pour des bêtises. Alors on a un filtre 1733 qui est capable de bien faire le job.
C'est pas un médecin alors qui répond au téléphone ?
Non, ce n'est pas un médecin. C'est la même personne que le préposé. C'est un préposé 112 1733. Il fait le même travail. Et d'ailleurs, c'est le même protocole, le même set de protocole. Donc c'est un tri sous la responsabilité de l'État. Mais c'est clair que si la garde telle qu'elle est maintenant devait se dégrader fortement, nous serions en milieu rural les premières victimes. Et je pense que non seulement les jeunes ne viendraient plus, mais clairement, des patients installés depuis 10-15 ans nous ont bien dit « on est là parce que c'était jouable avec la garde grâce au système actuel », mais ils partiraient clairement si ça devait se dégrader.
Oui, il faut comprendre que ce système, pour le patient aussi, c'est un problème. Parce que si vous avez un médecin qui fait sa journée de travail, parfois de 10 ou 12 heures, on le disait, puis qui enchaîne avec une garde la nuit, et puis qui enchaîne encore avec une journée de travail après, quelle est la qualité des soins ? Après tout ça, c'est aussi au préjudice du patient, finalement. Je pense que c'est important que la population comprenne aussi que des médecins qui sont en forme, des médecins qui vont bien, mais c'est aussi des soins de qualité.
Paul Demung, c'est un système qui est remis en cause en ce moment. Ça coûte trop cher, ce système de garde centralisée ?
Je ne vais pas entrer dans « ça coûte trop cher », il faut savoir ce qu'on veut faire et puis il faut mettre l'argent qu'il faut pour. Hein. Je pense que c'est vrai que ça coûte beaucoup de millions, cette histoire de postes médicaux de garde. On est en pleine turbulence, Guy l'a dit. Je pense qu'il faut remettre sur la table le débat de base. Et je vais risquer de vous dire qu'on doit même oser lever le tabou de dire « est-ce que la garde en médecine générale doit encore persister ?» Si oui, sous quelle forme, comment, avec quels moyens. S'il faut mettre de l'argent, on met de l'argent. C'est pas le problème. Enfin, c'est pas le problème. Je veux dire, il faut savoir pourquoi on le fait. On peut discuter sur l'efficience et tout ce qu'on veut. C'est un autre débat. Mais moi, je pense que plus fondamentalement parlant, quand on voit qu'on bloque un médecin toute une nuit, parfois pour très très peu d'interventions. Oui, ça coûte de l'argent à l'État, mais ça bloque un médecin aussi en pleine pénurie. Et le lendemain, il peut pas prendre congé parce que c'est un indépendant. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que il faut maintenant proposer au ministre de prévoir un honoraire peut-être de récupération qui lui permet de se reposer le lendemain, comme M. Adnet disait, pour justement ne pas devoir passer la nuit et une heure après commencer ses consultations.
Mais ça en vaut la peine pour justement éviter un engorgement des services d'urgence, parce qu'une personne qui aurait un problème la nuit, se présentera directement aux urgences s'il n'y a pas ce filtre parfois de la médecine générale. Pascaline de Trèpe, oui.
Il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Il y a des postes de garde qui ont été mis à côté des urgences où il y avait des collaborations. Après, il y a aussi toute l'éducation en disant on est dans une société où tout doit être là tout de suite, on doit avoir une réponse à tout de suite et donc on ne prend plus la peine éventuellement d'attendre, peut-être de donner un petit médicament et de voir comment ça va. Il y a des vraies urgences et qui doivent être vues et qui peuvent être vues par les généralistes. Et puis, il y a des urgences qui, de toute façon, on va sur place et on envoie aux urgences. Et donc, c'est pour ça que le tri vaut la peine d'être fait et vaut la peine de continuer à être fait.
Aujourd'hui, j'ai envie de donner des bonnes nouvelles. Donc, encore une bonne nouvelle, c'est que le Collège de médecine générale s'est emparé de la question francophonin, s'est emparé de la question et il va y avoir une enquête auprès de différentes catégories de médecins, jeunes et moins jeunes, pour justement voir leur perception de la garde. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Comment ça se passe? Et qu'avez-vous envie pour demain? Qu'est-ce que vous voudriez comme système, etc. Donc, moi, j'attends ça avec impatience pour pouvoir tirer des conclusions. Après, on va débattre et on verra d'abord qu'est-ce que, en particulier, les plus jeunes générations veulent pour demain.
On va aborder maintenant le volet solutions rapidement. Guy Delleret, quelles sont pour vous les solutions à envisager pour réduire cette pénurie de médecins généralistes?
Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les jeunes. Je pense qu'il faut réfléchir aussi sur les quotas de numéro inadmis. On les a, c'est vrai, un peu élargis, mais l'a-t-on fait suffisamment? On l'a en tout cas fait beaucoup trop tard, donc on a quand même quelques années à récupérer. Donc ça, je crois qu'il faut quand même encore creuser cette voie-là. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les jeunes futurs médecins, que la médecine générale est vraiment une très belle discipline où on voit plein de choses, qui est très riche intellectuellement, humainement, etc. Et je pense aussi, pour résoudre les problèmes de répartition sur le territoire, qu'il faudrait quand même, par exemple, pouvoir plus qu'encourager les jeunes de faire un an d'assistanat dans les zones rurales. Hein. C'est pas difficile, il y a plus de 50% du territoire wallon est en critère de pénurie. Donc faire un an en pénurie, je pense que ça peut être aussi enrichissant, puisque sur le plan du travail en lui-même, ce n'est pas exactement la même chose. Donc il y a plein de choses pour la pratique qui sont bonnes à apprendre. Donc je pense aussi que c'est une manière de venir voir dans les zones les plus désertiques en termes de médecins qu'on y travaille bien, qu'on y vit bien et que ce n'est pas si loin que cela des grands centres urbains auxquels les jeunes sont attachés.
Vous partagez cet avis, Pascaline?
Oui, je partage tout à fait. Après, moi, j'irais, je pense que pour réfléchir et prendre des vraies solutions par rapport à cette pénurie, c'est réfléchir différemment tous les soins de santé. On travaille maintenant en silo quand on réfléchit la médecine, que ce soit en silo médecine spécialisée, hospitalière et puis médecine générale. On travaille par maladie. Je pense qu'il faut plus travailler par population, par quartier ou même par région, parce que la beauté du métier, en tout cas du médecin généraliste, c'est qu'on est tous très différents et que les patients ont besoin de pratiques différentes, de médecins différents. Mais du coup, ça donne des besoins différents. Mais si, sur un territoire donné, on réunit ensemble tout le personnel de soins, que ce soit socio-santé, et qu'ensemble, on réfléchit à la façon de pouvoir aider les gens dans leur santé et leur bien-être, du coup, on va avoir une approche qui va être plus globale et plus réelle aux réalités du terrain. Et donc, je pense qu'il faut changer de paradigme à notre fonctionnement en silo actuel pour pouvoir avoir cette réponse de pénurie, mais à plusieurs. Parce qu'en effet, 2041, on va tous s'épuiser avant. Donc il faut qu'on ait des solutions maintenant, en attendant 2041.
Paul Demingue, vos solutions?
Moi, je crois qu'il faut... Enfin, j'ai réfléchi avant de venir, hein, c'est tout chaud. Mais je pense qu'il est urgentissime d'établir un plan d'action de solutions palliatives et à court, moyen et long terme. On doit mettre autour de la table tous les gens concernés. Alors, peut-être plus largement que simplement les médecins généralistes, je rejoins Pascaline. On doit les mettre autour de la table avec qui? Avec les trois niveaux de pouvoir. Le fédéral, le communautaire, Fédération Wallonie-Bruxelles, et le régional. On doit tous se retrousser les manches, y compris au niveau provincial, y compris au niveau commun. Il y a plein d'initiatives qui ont déjà commencé, mais on manque d'une initiative collective, bien réfléchie au sein du Collège de la médecine générale, par exemple, et pas rien qu'au niveau d'un syndicat, collégialement, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen et long terme. Et il y a des choses qu'on peut faire à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Sinon, effectivement, rendez-vous dans 10 ans et où est-ce qu'on en sera? Donc, je pense que là, il est urgent de s'emparer de ça. Et je ne vois personne d'autre, puisque les autorités sanitaires ne s'emparent pas de cela. J'ai pas dit qu'elles ne s'intéressent pas au problème et qu'elles n'ont pas envie de trouver des solutions, mais réfléchissons ensemble pour leur offrir des pistes de solutions et dire ça vous pouvez faire, ça nous aiderait, etc., etc. Donc, résultat de l'enquête avec impatience. À partir de là, un plan d'action palliatif à la pénurie.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités. Merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast. Et merci à vous qui nous écoutez.